Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
En une de vos journaux ce matin, bien, il traque les doses restantes. Hein. C'est le dossier à la une de la Dépêche du Midi.
Oui, effectivement, devant les centres de vaccination ou sur le site Covid List, des milliers de Français non encore éligibles cherchent à se faire vacciner avec les doses inutilisées. Un objectif zéro gâchis, d'autant plus important que le vaccin Johnson & Johnson, sous le coup d'une enquête pour des cas de thrombose, sera livré avec du retard en Europe. De son côté, l'opinion fait sa une sur un Emmanuel Macron à l'épreuve des 100 000 morts après le Royaume-Uni, l'Italie. La France sera donc le troisième pays d'Europe à passer cette barre fatidique, une étape délicate pour l'exécutif. Dans ce contexte, en tout cas, la maire de Paris, Anne Hidalgo, propose de construire un lieu de mémoire active dédié aux victimes de l'épidémie. L'opinion qui souligne également que le gouvernement a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre la France et le Brésil. Le Brésil en proie, on le disait, à un variant particulièrement agressif.
Faut-il filmer les procès? C'est la question à la une de Vaucluse ce matin.
Oui, puisque c'est l'une des mesures proposées par le garde des Sceaux dans son projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Texte proposé, présenté en Conseil des ministres ce matin. Parmi les raisons invoquées, l'intérêt public, la nécessité de pédagogie, tout en garantissant tout de même pas porter atteinte à la présomption d'innocence, d'où plusieurs conditions à cette autorisation donc des captages des procès.
Oui, et puis on termine et on poursuit avec, bon, il y a le football évidemment, ça, et toutes les unes reviennent, beaucoup de journaux reviennent sur cette qualification du PSG, mais il y a une histoire incroyable qui a retenu votre attention, c'est à la une de Midi Libre, Benjamin, miraculé après 18 heures perdues en mer.
Et c'est une histoire complètement folle. Hein. Yann Covin, qui fait de la planche à voile, il est Toulousain et il témoigne de sa terrible nuit du 3 au 4 avril dans une eau à 12 degrés avec des creux d'un mètre et demi perdus en mer. Un cauchemar qui a pris fin avec une apparition salvatrice. On imagine qu'il a été soulagé lorsqu'il a vu les sauveteurs qui l'ont retrouvé au large de Gruissan.
Ah ouais, non mais ça évidemment, c'est toujours des grandes frayeurs et ces histoires sont assez incroyables quoi. Merci à vous Benjamin Glaise pour la revue de presse. On continue du côté de la revue de presse en filant sur la Côte d'Azur avec Denis Carreau, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Bonjour Denis.
Bonjour Patrick.
Pourquoi ça va mieux? C'est le titre en une de Nice Matin. Parce qu'il y a des signes d'amélioration, c'est ça?
Oui, ça va vraiment mieux, hein, effectivement, dans les Alpes-Maritimes. Alors, il faut bien entendu se garder de tout excès d'optimisme, mais la situation s'améliore de manière sensible et certains se prennent déjà à rêver à une sortie du tunnel. Ici, le taux d'incidence avait atteint 642 pour 100 000 habitants fin février, avant l'instauration du confinement du week-end. Nous sommes aujourd'hui descendus à 276. C'est encore au-dessus du seuil d'alerte, mais ça a beaucoup baissé. Et bonne nouvelle aussi, la pression hospitalière commence doucement à baisser. On rajoute à ça une excellente nouvelle, la vaccination progresse. Dans les Alpes-Maritimes, 22,4% des habitants ont déjà reçu au moins une dose de vaccin. C'est 6 points de plus par rapport à la moyenne nationale. Et on voit qu'ici, on est capable d'aller très vite. On l'a vu vendredi, par exemple, à Nice, où plus de 5000 personnes ont été vaccinées dans un seul centre de vaccination la même journée. Si les doses sont disponibles, les choses peuvent s'accélérer. Et là aussi, c'est une nouvelle plutôt réjouissante.
Oui, c'est ça. Cela dit, comme vous le dites, c'est l'autre titre à la une de Nice Matin. Pourquoi ça va mieux? Mais attention, le retour à la vie normale n'est quand même pas pour demain. Hein.
Oui, là, il faut pas espérer un déconfinement ou une anticipation du déconfinement. Ça avait été évoqué il y a quelques semaines. Il ne faut pas se précipiter. Tout le monde attend effectivement d'avoir des échéances et notamment. Regarde les professionnels du tourisme particulièrement, ce qui sera dit par Emmanuel Macron qui réunit ses ministres demain pour justement évoquer les protocoles de sortie de crise dans les différents secteurs, mais pour le moment il est trop tôt pour envisager quoi que ce soit de concret.
Oui, mais il y a tout de même des notes d'optimisme, comme vous le dites en une, donc c'est à lire sur Nice Matin, Var Matin et puis évidemment aussi en numérique, sur les éditions digitales. Merci Denis Carreau d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Sud Radio.
Et on continue le petit déjeuner de l'actu. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Eric Revel, vos appels 0826-300-300.
Oui, alors il y a beaucoup de sujets qui font réagir. Oui. On reviendra peut-être sur cette histoire de la goutte d'eau là, d'Evian. et il y a aussi ce qu'évoquait quand même à l'instant Denis Caro, c'est-à-dire que on pense à la suite, à la sortie de crise. Alexis Poulain, vous l'évoquiez dans votre dans votre édito ce matin, il faut y songer parce que notamment sur un plan financier, on ne va pas pouvoir subvenir en permanence et donner des aides, etc. Quoi. Le robinet risque de se fermer à un moment donné. Quoi,
alors le robinet va se fermer, ça c'est sûr. La question c'est à quelle vitesse il va se fermer. Alors l'idée c'est d'être progressif bien sûr dans l'arrêt des aides, avec la croyance on a un rebond, une retour de la croissance assez vif pour éviter justement de nombreuses faillites. Mais comme je le disais ce matin, il y a déjà 7 à 8 milliards qui sont provisionnés pour les faillites et le non-remboursement des prêts garantis par l'État en 2023. Plus le fait que vous avez une précarité grandissante, c'est 780 000 étudiants qui ont eu recours au repas à 1 euro contre 160 000 en janvier, donc vous voyez que les chiffres sont en train d'exploser, avec cette question, est-ce qu'il y a des secteurs qui vont pouvoir vraiment reprendre, que ce soit l'événementiel, le monde de la culture, la restauration, combien de commerces ne vont pas réouvrir leurs portes parce que finalement, ils n'auront pas tenu, malgré les injonctions, tenez bon, on est ensemble, il faut tenir ensemble, certes, mais à un moment, on ne peut plus tenir. Et puis, c'est vrai que ce chiffre...
C'est un peu comme la marée, quoi. Quand la mer va se retirer, on verra un petit peu les...
Qui restent
les
sur la plage.
Quelques dégâts, quoi.
Quelle métaphore
Je suis bien réveillé. Elisabeth,
Et c'est vrai que cette question en fait, du retour à la normale, on voit bien que ce ne sera pas un retour à la normale. Déjà, Emmanuel Macron avait commencé de dire devant les collégiens que oui, on va réouvrir. Alors, si on réouvre à partir de mi-mai, ce sera beaucoup moins rapide qu'en mai 2020, donc ce sera très progressif. Donc, on aura en plus quelque chose de complexe. Par exemple, demander aux restaurants d'ouvrir avec des jauges réduites, ça veut dire qu'il faut continuer les aides. Sinon, eux ne pourront pas faire du chiffre. Donc, c'est toute cette question-là de la reprise économique. Est-ce que les Français vont être au rendez-vous aussi de la consommation? Bruno Le Maire s'inquiète des économies qui deviennent stratosphériques, mais les gens ont peur de l'avenir. Tout le problème est la confiance. Et cette confiance, elle est en train, pas forcément de revenir, compte tenu des chiffres, des déclarations, d'une politique assez peu lisible pour tout le monde.
Oui, Éric Revel, peut-être avant Elisabeth Lévy, puisque c'est sur des questions assez économiques. Quoi. C'est vrai qu'il faut penser à cette sortie de crise et que c'est difficile aujourd'hui d'imaginer comment elle pourra avoir lieu peut-être à partir de mi-mai.
Oui, pour pas être abandonné comme un galet sur la mer qui descend. Il faut effectivement ne pas fermer brutalement le robinet des aides, parce que vous allez avoir ce qu'on appelle un effet ciseau en économie, c'est-à-dire un chiffre d'affaires, comme le disait Alexis, qui ne va pas reprendre fortement, ou qui va peut-être être inférieur de 15 à 20%. Or, c'est à partir de ce chiffre d'affaires réel que vous allez pouvoir rembourser le fameux prêt garanti d'État, pour ne citer que cette aide. Ben, si le chiffre d'affaires est trop faible, le risque, c'est que ou bien l'État sera obligé de proroger de nouveau le remboursement de ce prêt, ou bien vous aurez des faillites. Et là, c'est évidemment un très, très, très gros sujet. J'ajoute quand même que, en termes de consommation des ménages, puisque la consommation c'est le premier moteur de l'économie française, ce qui n'est pas le cas par exemple en Allemagne, puisque ce sont plutôt les exportations qui tirent la croissance allemande, on a souvent noté, comparaison n'est pas raison, on a souvent noté qu'après des crises violentes, je pense par exemple à celle de 2008-2009 qu'on appelait la crise des subprimes aux États-Unis, et qui avait mis la finance mondiale pour ses excès par terre, on note un redémarrage assez fort précisément de la consommation des gens, des Français et des Françaises. Et j'ai la faiblesse de penser qu'avec cette crise sanitaire qui nous a quand même privés de tout, et notamment de ce qui fait le sel de la vie, le restaurant... un appétit de croissance. Et moi, je serais beaucoup moins pessimiste qu'Alexis. Et je pense qu'au contraire, si toutes choses étant égales par ailleurs, les commerces, les restos, la culture rouvrent à la mi-mai, je pense qu'on va assister à une sorte de pic de boulimie, peut-être même avec des excès, mais qui vont avoir des implications, accident de la route, santé. Il va y avoir, je pense, un pic de consommation. Pardon, Elisabeth, j'ai pas trouvé une autre façon de filer la métaphore.
Elisabeth.
Non, elle est très bien. Non, moi j'ai surtout une question, c'est-à-dire on nous dit que quoi qu'il en coûte, va s'arrêter, mais il y a tout de même une donnée politique qui sont les élections présidentielles. Est-ce que la tentation ne va pas être de continuer continuer à arroser et est-ce que finalement ça n'est pas de la monnaie de singe?
Oui.
C'est-à-dire, les gens, ce que les gens se demandent, c'est est-ce qu'à un moment on va devoir rembourser? Est-ce que vous croyez
à
cette
affaire?
Est-ce que vous croyez à cette histoire selon laquelle, moi ça me paraît quand même être vraiment un gros bobard, que les impôts ne vont pas augmenter? Donc je veux les lumières d'Éric. Un phare dans la nuit.
Éric et Alexis.
Sur la marée.
Éric et Alexis. Ouais.
Le phare des baleines au bout de l'île de Ré.
Ouais. Ouais.
Alors, voilà. Alors. Il y a un vrai sujet. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé là. Je crois que c'était hier ou avant-hier. La France fait pression au niveau de ses partenaires européens pour faire bouger le fameux critère du pacte de stabilité de 3%. Ouais. C'est qu'il y a une règle qui interdit à tout pays qui a l'euro en commun de dépasser ce fameux critère qui a été signé à Maastricht par Mitterrand de 3% du déficit par rapport à la croissance. C'est un peu technique, mais c'est important. Or, on est en train de pousser l'idée que, en gros, ce critère qui est le critère phare, et voilà, donc voilà, du pacte de stabilité, bah, les Français n'en voudraient plus forcément. Alors, ça ne veut pas dire que les Allemands l'accepteront, ça ne veut pas dire que l'euro y résistera, mais en tout cas, il y a une question qui est posée sur le remboursement de la dette. Il y a aussi les Français qui ont voulu, vous savez, on est les rois de l'idée, nous. Hein. Pour ne pas faire trop pression sur nos finances, il y a très longtemps, on avait dit, on va sortir les dépenses militaires du calcul de ces critères de Maastricht. Et aujourd'hui, on dit, mais faut peut-être cantonner la dette Covid ailleurs pour pas qu'elle pèse trop sur les ratios. Et comme on ne trouve pas trop d'écho à nos idées, on dit, et au fait, si on modifiait les critères eux-mêmes. Donc il y a une question, évidemment, de fond, mais j'y réponds pas, Elisabeth.
Alexis, on s'écrase devant l'Allemagne.
Alexis. Non, mais on peut gagner parfois contre l'Allemagne. Vous allez voir ça dans un instant.
Elle est extrêmement importante parce que c'est un peu le tabou, cette règle des 3%, de dire où est-ce qu'on va. Clairement, Olivier Dussopt disait qu'on ne va pas revenir à ça avant 2025-2027. Donc oui, l'argent magique, la monnaie de singe pour 2022, ça c'est acté. Et la dette qui court jusqu'en 2025, voire au-delà, c'est le fait avec d'ailleurs la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui a été prolongée encore de 20 ans. Tout ça fait que oui, ça inquiète nos partenaires européens, notamment l'Allemagne, puisqu'eux ne sont pas dans ce cas-là, de dire mais à quel moment vous allez commencer à dire que réduire la voilure et puis commencer à rembourser. Le débat sur l'annulation de la dette ne bat pas vraiment son plein. Vous avez un camp qui est pour, qui essaie d'expliquer qu'il faut annuler une partie de la dette publique détenue par la BCE, et puis une autre partie qui dit que c'est impossible, qu'il ne faut pas rêver et qu'il va falloir la rembourser. Ce sera un débat quand même qu'il va falloir avoir. Dans le passé, on a annulé des dettes.
Oui, petite parenthèse dans ce débat pour montrer qu'on peut parfois gagner contre l'Allemagne.
Hier soir, c'est
Baptiste, c'est Isabelle
de Boulogne.
Bonjour Baptiste.
Bonjour Baptiste.
Bonjour à tous.
Oui, 0826 300 300. Bon, on gagne en perdant, mais comme le dit Eric, mais enfin, on a quand même réussi à éliminer le Bayern de Munich. Vous avez vibré, vous avez regardé le match ou pas?
J'ai regardé le match et évidemment j'ai vibré, que ce soit d'ailleurs au match aller ou au match retour, avec des fortunes diverses. J'ai vibré aussi, il faut rendre hommage à la qualité du commentaire de Jérôme Rotten, parce que c'est vrai qu'avoir un ancien footeux et un amoureux du PSG pour nous faire vivre les matchs du PSG, c'est quand même un plus super sympa. On a perdu hier... Mais on était les premiers à aller s'imposer à Munich depuis très 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 longtemps. Preuve qu'on peut battre l'Allemagne, évidemment.
Ouais.
Après beaucoup ont parlé de braquage au match aller ou de hold-up ou de miracle.
Là c'était l'inverse hier soir, finalement. Parce que les Parisiens ont moins bien joué à l'aller, mais ils ont gagné. Là ils ont mieux joué, ils auraient dû gagner hier soir et ils ont perdu, quoi.
Et je pense que très sincèrement, je ne suis pas un expert des questions économiques comme vos précédents invités, mais je ne suis pas sûr qu'au foot, à ce niveau de compétition en Ligue des Champions, on puisse parler de braquage et de hold-up. Je pense que le foot, ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne.
Ouais.
Et puis avoir ce genre de réflexion de la part des Allemands, qui ont quand même dans l'histoire pas été non plus des apôtres du beau jeu et qui ont souvent gagné sans forcément faire autre chose que de la baston. Je pense à Séville notamment. C'est assez riche de se faire accuser d'avoir gagné à la salle.
Les Français qui jouaient hier soir dans le camp allemand, Hernandez, Pavard, tout ça, on les a entendus. Et puis ça résumait peut-être aussi l'état d'esprit de l'équipe. Disait on est tombé contre Paris qui a été meilleur. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même un collectif, parce que souvent, on a dit que cette équipe du Paris Saint-Germain, c'était des stars, chacun jouait de son côté. Et là, à travers ce match hier, ils étaient assez soudés.
C'est la nouveauté de la saison, c'est la nouveauté de cette campagne de Ligue des Champions, c'est qu'effectivement, on a l'impression que plus qu'une addition de stars et de beaux joueurs de football, on commence à trouver effectivement un collectif. Puis il faut aussi souligner que hier, on gagne, on est loin de gagner, enfin on se qualifie en tout cas, en étant loin d'avoir l'équipe type sur le terrain. Il y a beaucoup de titis parisiens, de minots qui sont sur le terrain. C'est voilà, sortir le Bayern de Munich qui est tenant du titre et qui est le Bayern de Munich avec
à qui il manquait beaucoup de joueurs au passage aussi.
Oui, mais Paris aussi. Donc et Paris dans les campagnes récentes de Ligue des Champions, ces 4-5 dernières années, a toujours eu aussi la malchance d'aborder les grands rendez-vous en étant privé de une, deux, voire trois stars. Et ben voilà, hier c'est arrivé au Bayern de Munich, mais ça, je pense que ça retire rien à la prestation collective du Paris Saint-Germain.
Moi, je voulais savoir, Baptiste, quels étaient vos pronostics avant le match ? Et dites-nous la vérité.
Non, mais en réalité, je vais vous dire, j'ai été inquiet pour le PSG avant le match aller pendant plusieurs jours. Ouais. Et le matin du match, en fait, je me suis dit, c'est un de vos collègues, Mathieu Faure, qui est un journaliste, je crois, de SoFoot et qui est aussi un grand fan du PSG, qui tweet très souvent sur le PSG et qui tweet toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que avant les matchs, tout est contre le PSG. On apprend la blessure de machin, on apprend la blessure de bidule, tout le monde est pas toujours là. Ouais. Et en fait, lui, il a pris le parti d'en rire et il dit maintenant, en fait, le club est construit sur un cimetière indien. Mais c'est le club qu'on aime, c'est la vie qu'on a choisi de mener. Et en fait, on va passer contre le Bayern de Munich parce qu'en fait, personne nous donne gagnant. On était censé se faire. Les Marseillais se sont moqués des Parisiens au moment du tirage au sort en disant que voilà, on était éliminés de la Ligue des Champions.
Et ça transcende.
Et ben, voilà.
Ouais. Merci. Merci Baptiste pour ce bon résumé en tout cas. Bien. Et puis il y a des gens qui n'ont pas vu le match et qui s'intéressent moins au foot aussi à travers vos images, ils ont pu apprécier. Allez, dans un instant, vous continuez à nous appeler 0826 300 300. On parle de toute l'actualité, tous les autres sujets aussi qui sont évidemment
qui
à la une ce matin.
Oui.
Et puis François Boulot qui sera avec nous, c'était l'une des figures des Gilets jaunes, avocat par ailleurs. Il sera avec nous tout à l'heure parce qu'il a un livre quasiment programme. Et on parlait beaucoup d'économie, il propose un certain nombre de solutions. On verra ça avec lui tout à l'heure.
Restez avec nous dans un instant. Les infos et on revient tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et bienvenue dans le Grand Matin Sud Radio, le petit déjeuner de l'actu. Vos appels 0826 300 300 avec cette information. La France suspend jusqu'à nouvelle heure tous les vols du Brésil. Et Samy voulait réagir. Bonjour Samy.
Bonjour Samy.
Oui, bonjour Sud Radio, merci de me donner la parole.
Ouais. Qu'est-ce qui vous fait réagir, vous, dans l'actualité ce matin, mon cher Samy ?
Alors moi, donc j'appelle pour en fait revenir sur ce qu'a dit Mme Elisabeth Lévy hier concernant l'école islamique.
Ah oui, d'Albertville, oui.
D'Albertville.
Oui.
Enfin, visiblement, elle était contre. Hein. Je trouve que c'était un projet qui n'a rien à faire. En France et
Non mais elle disait aussi que en revanche elle n'était pas pour interdire ça. Elle dit c'est le droit qu'il faut peut-être voir, mais elle défendait au contraire. Mais c'est oui, allez-y Samy, et puis elle vous répondra.
J'ai pas très bien compris alors parce que moi, par rapport à la charte de la laïcité, je pense qu'il y a c'est pas pour faire des amalgames. Hein, moi je suis pas pour les monter les communautés les uns contre les autres, mais il y a des écoles juives. Oui. En France, à Paris notamment, il y en a pas mal. Et ils font pas polémique, ils sont pas interdits. Et puis c'est pas mon but ni mon souhait. Attention, hein, je suis pas en train
de. Non, mais bien sûr.
Mais je trouve que c'est dommage qu'on essaie d'interdire en fait une école soi-disant islamique. C'est pas du tout une école islamique, c'est une école. Il y en a plein à Paris, aussi des écoles musulmanes où des jeunes veulent apprendre le français parce que c'est des écoles qui respectent la charte. Hein, le vivre ensemble, hein, y a pas de problème. Mais de là à interdire, moi je pense que déjà le mot interdire, c'est pas bien parce qu'on on fait des amalgames, on différencie.
Samy, je vous propose. Elisabeth est avec nous toujours. Elisabeth, peut-être de clarifier les choses sur ce que vous avez dit.
Bonjour Samy. Alors d'abord, oui, j'ai commencé ma chronique hier en disant je préférerais que cette école n'ouvre pas. Pourquoi ? Parce que effectivement, il y a ce qu'on appelle un ferment là de séparatisme. Hein, les fondateurs, enfin les gens de Miligorus n'ont pas voulu signer cette charte. Bon, j'y accorde pas plus d'importance que cela. Mais ce qu'on voit bien, si vous voulez, c'est que leur but, c'est d'empêcher l'assimilation des enfants, les empêcher de se mélanger. Alors, je vous arrête tout de suite. Vous avez tout à fait raison. Si vous voulez, il y a des écoles juives. Simplement, effectivement, on n'a pas aujourd'hui un problème de séparatisme juif, si vous voulez. S'il y avait...
Et il y a des écoles musulmanes où il n'y a pas forcément aussi de séparatisme.
Non, je dis, le problème d'arrière-fond, c'est parce que nous avons ce problème. Maintenant, ce que j'ai dit hier, c'est que la décision du tribunal, en l'occurrence, me paraissait simplement être le respect du droit. C'est tout simplement, il y a en France la liberté d'enseignement. Elle date de 1850, cette loi d'ailleurs. C'est la loi Fallou qui s'applique toujours. Mmh. On se rappelle en 84, si vous voulez, qu'il y a eu plus d'un million de personnes dans la rue pour défendre cet enseignement privé, notamment hors contrat. Donc, la seule chose que je disais, c'est qu'effectivement, je préférerais, si vous voulez, que n'y ait pas, et notamment de la part de Miligorych, cette tentation d'isoler les enfants musulmans. Maintenant, oui, je n'aime pas les interdictions. Je crois qu'on doit vivre dans une société libérale, et en tous les cas, que, effectivement, là, en l'occurrence, le tribunal a respecté le droit. Voilà ce que je disais.
Oui. Samy, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
Non, mais c'est juste que c'est. Je suis en partie. Je suis un peu d'accord avec Madame
Lévy.
Elisabeth Lévy, mais d'autre part, en fait, je comprends pas parce que c'est. On a fait toute une polémique pour un truc qui a pas lieu, quoi. Qui a pas lieu d'être. C'est la polémique qu'on fait sur une école.
Ouais.
Moi, j'ai un travail qui fait que je fréquente beaucoup la communauté turque. Moi, je suis en banlieue parisienne, mais je fais tout Paris. Et franchement, c'est des gens que je trouve très intégrés, quoi. Ils sont intègres, ils sont instruits. Bon, c'est vrai qu'il y a ce côté où ils se renferment sur eux-mêmes. Mais
on peut pas mettre non plus tout le monde dans le même panier, hein, y compris en fait dans la communauté turque, bien sûr. Heureusement, la majorité,
il faut ajouter quelque chose. Il faut ajouter quelque chose, c'est que dans le cas d'une école turque, pourquoi aujourd'hui, si vous voulez, ça crée des tensions ? Parce que d'abord, il y a un lien direct entre Miligorych et la Turquie, le régime, donc un pays étranger, et un pays étranger dont le président n'a cessé d'insulter le nôtre, si vous voulez, et qui dit ouvertement que l'assimilation, c'est un crime contre l'humanité. Il ne veut pas, lui, que les Turcs deviennent des Français intégrés, comme vous le dites. Donc voilà ce qui a ravivé en plus la polémique, si vous voulez, c'est notre contentieux avec la Turquie. Voilà.
Merci Samy. Merci donc Elisabeth Lévy. Donc toutes les questions dans l'actualité, évidemment, que l'on aborde, il y en a une qui est toujours dans l'actualité, c'est la vague de gel qui s'est abattue là, et les agriculteurs sont en train de constater toujours les dégâts parce que ça continue. On va prendre des nouvelles
Françoise Roque, qui est avec nous et qui était arboricultrice dans le Tarn-et-Garonne et présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits. Bonjour.
Oui, bonjour messieurs, dames.
Oui, vous êtes à Moissac, précisément. Alors, qu'est-ce que ça donne, là ? Parce que au fur et à mesure et au fil des jours, on découvre qu'il y a de plus en plus de productions qui ont été touchées. Est-ce qu'on a pu évaluer le bilan, là, aujourd'hui ?
Alors, on ne peut pas évaluer le bilan. Ce qui nous a fait extrêmement mal, c'est la semaine dernière où on a eu deux nuits extrêmement violentes où ça ressemblait plus à des gelées d'hiver que des gelées de printemps. Donc, des gelées qui ont commencé à 10-11h le soir où on avait encore 0-9h le matin. Et ça, c'est extrêmement compliqué à combattre. On sait combattre le gel, mais plutôt des gelées de printemps comme on a eu ce matin. Il faut savoir qu'on est encore sur un épisode. Ce matin, je suis avec vous. Je reviens du champ où on a éteint à 8h30.
Oui.
On a eu moins 2 et c'est donné à peu près jusqu'à samedi. Oui. Donc tout n'est pas fini. Bien sûr, les gens qui ont perdu, c'est fini. Les gens qui ont réussi à sauver encore un petit peu, on continue à être sur le terrain pour essayer de sauver tout ce qu'on peut.
C'est très grave, et
plus effectivement les producteurs regardent, même des producteurs qui pensaient ne pas avoir été touchés ou peu, on s'aperçoit que en ouvrant les fruits à l'intérieur, le noyau commence pour les fruits à noyau pêche abricot commence à noircir à l'intérieur. Donc ce sont des fruits qui ne grossiront jamais.
Oui, donc ce qui veut dire qu'on va avoir sans doute une crise là, à la fin du printemps, cet été, hein, pour les fruits. Vous avez des pommes, des prunes, c'est ça, du raisin?
Alors, sur ma ferme, j'ai pommes, prunes, raisins, oui, raisins de table avec, je suis dans l'aire d'appellation du Chassagne Moissac.
Oui, d'accord, oui, oui. Bon, est-ce que vous avez une question à poser pour Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, parce qu'on va le recevoir demain matin pour faire un point et un bilan et lui poser toutes les questions. Si vous en avez une, Françoise?
Julien de Normandie, nous l'avons eu lundi, il a ouvert une cellule de crise et on l'a remercié parce qu'il a été très très rapide à réagir. On a M. Castex qui est parti en Ardèche puisque ça a été un département... qui a été très touché puisque c'est a priori il n'y a plus rien du tout en Ardèche. C'est lui dire simplement que aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se disent au niveau politique et qui sont à la hauteur de ce qui est dit. On a des producteurs, beaucoup de producteurs qui vont faire une année blanche. Une année blanche, nous on aimerait que le Covid nous serve aussi parce qu'on sait qu'il y a des professions qui vont faire une année blanche et je pense que le gouvernement a réagi très fort aussi sur le Covid et est à la hauteur de la problématique sur certaines professions. Et il faut qu'il soit pareil au niveau des fruits parce que une année blanche, on va mettre des années à s'en remettre. Hein. Et c'est vraiment un très, très gros coup dur pour notre profession.
Oui, oui.
Vraiment un très gros coup dur. C'est pas juste cette année. Il va y avoir des répercussions sur plusieurs années. Je pense notamment aux jeunes agriculteurs qui sont installés depuis très peu de temps. Je pense à des gens qui ont déjà gelé les années précédentes, dans la Drôme, dans l'Isère, en Ardèche aussi les années précédentes, où vraiment ça devient très très difficile.
Non, mais
si on veut garder les prix en France, il faut vraiment vraiment que... on mette les moyens et que les politiques soient à la hauteur de ce qui
bon,
nous...
Oui. Sur les systèmes de lutte, hein, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce dérèglement, c'est-à-dire dérèglement avec eh bien disons des bourgeons et des fruits qui viennent plus tôt qu'auparavant, oui, parce qu'il y a des fins d'hiver qui sont plus doux.
Très, très douces. On a des hivers de plus en plus chauds.
Bah, c'est bien pour ceux qui vont prendre un café en terrasse, du moins chez eux, voilà, ou sur leur balcon, mais en revanche, c'est moins bon... en agriculture, quoi. Non, mais ça, c'est vrai.
Et alors, sur le long terme, on sait qu'on est sur un réchauffement climatique sur le long terme, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a une exacerbation des phénomènes très violents. Quand il fait chaud, il fait extrêmement chaud. On manque d'eau dans certaines régions. Les froids, quand ils arrivent, c'est des froids incroyablement violents. On exacerbe tous les phénomènes. Les tempêtes, on a eu des tempêtes dans certains vergers qui ont couché des vergers. Donc tout ça, c'est des choses que nous, on ressent très violemment et il faut qu'on trouve des solutions pour protéger notre agriculture.
Ouais. Bon, bah, écoutez, on lui Merci posera beaucoup, toutes ces questions demain matin. Il sera notre invité à 7h40, hein, Françoise Roch.
Qu'il soit à la hauteur de ce qu'il nous a dit.
Eh bien, voilà, qu'il respecte, quoi. En tout cas, les promesses et ses engagements. Merci beaucoup. C'est vrai, Alexis Poulain, que c'est terrible quand même pour ce secteur qui est déjà en difficulté, alors qu'on dit qu'il faut consommer local, donc on voudrait les aider. Et on voit que c'est dur. Et en même temps, en plus, quand il y a des événements climatiques tels que ceux-ci, où là, on a moins de prise.
Oui, c'est vraiment un secteur totalement oublié, je crois, de l'action publique et même des...
Enfin, pas oublié, parce qu'on donne beaucoup de subventions, etc.
Il y a des subventions, mais ça fait des semaines que vous avez des manifestations d'agriculteurs, on en parle très peu, pour justement se battre sur les prix. Vous avez tous ces débats sur le climat qui sont en train de pointer du doigt l'agriculture intensive, les engrais azotés, etc., en disant, voilà, vous allez devoir travailler autrement sans comprendre les réalités du terrain et des producteurs. Puis vous avez bien sûr cette vague de gel. Alors heureusement, on en parle, qui va impacter tous les maraîchers, les vignerons et tous ceux qui travaillent de ce travail de la terre. L'importance de cette arme verte, hein, l'indépendance nourricière d'un pays, on est en train de la perdre avec ces accords transnationaux et qui n'arrêtent pas. Et c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas un métier facile, ça on le savait, mais non, c'est de plus en plus difficile. difficile. Et je ne vois pas comment une jeune génération va remplacer dans les exploitations petit à petit ceux qui vont partir à la retraite, ceux qui arrêtent ou ceux qui se tuent malheureusement,
c'est
puisque c'est
pas.
Une profession où se suscite beaucoup.
Et pourtant, quand on en écoute certains, ils ont envie de retourner à la terre, etc., y compris des plus jeunes.
Il y a une vision fantasmée et puis il y a une vision réelle.
Et je suis réelle.
Bien sûr, l'agriculture paysanne, tout le monde est pour. C'est formidable de produire bio, c'est formidable d'être en autonomie, etc. Mais il y a une réalité, il faut nourrir 66 millions de personnes. Il faut le faire aussi dans le respect, bien sûr, de l'environnement, mais aussi en étant capable d'en vivre. Tout le problème aujourd'hui de ce métier, c'est comment en vivre. Alors certains s'en tirent très bien, mais pour d'autres, c'est de plus en plus délicat, de plus en plus difficile. Et alors heureusement, l'État s'est mobilisé pour cette vague de gel, mais j'attends de voir quelles sont les réponses face à la grogne agricole ces derniers jours.
Elisabeth Lévy, vous voulez ajouter
j'ajouterais juste à l'excellent développement d'Alexis, avec lequel je suis d'accord, qu'en plus de tout, les agriculteurs subissent tout de même des attaques permanentes des écologistes, parce que vous comprenez, l'agriculture, ça pollue, il n'y a que les ours qui ne polluent pas pour eux, et les touristes. On n'entend jamais les écolos dénoncer le tourisme de masse, mais l'agriculture, ils n'aiment pas ça. Franchement, pas beaucoup. L'agriculture, ils trouvent que c'est vraiment une activité dégoûtante, que l'homme ne fait qu'abîmer la nature.
De qui vous parlez
des écolos.
Des écolos. Pas tous, mais... non, mais c'est vrai.
Sur une agriculture traditionnelle.
Il y a une vision, effectivement, une méconnaissance de ce secteur, qui est un secteur économique important, avec des réalités de terrain qui sont très différentes du fantasme qu'on peut en avoir dans les villes. Voilà, c'est ça qu'il faut voir.
Je vais traire.
Oui, allez. Éric, pour conclure. Éric,
les bistrots sont fermés.
Juste, Patrick, ce qui est important, c'est que Julien de Normandie, demain sur Sud Radio, annonce les départements qui vont basculer dans ce qu'on appelle le statut de calamité agricole. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de départements en France, puisque le ministre a dit que c'était sans doute le gel du siècle qui frappait l'agriculture française, il faut qu'il annonce maintenant très vite quel département va bénéficier de ce statut de calamité agricole pour que les arboriculteurs, les viticulteurs, les agriculteurs soient rassurés. Parce que là, il y a quand même ça. Il y a l'angoisse de la récolte, de la vendange, de la moisson face, pour l'instant, à un État qui a très vite réagi, mais voilà, alors...
Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de questions, on verra tout ça.
C'est ça, ce qu'attendent les agriculteurs. Ouais.
Merci à vous, 0826-300-300, vous avez été nombreux à nous appeler et à vouloir réagir sur l'actualité, vous allez pouvoir le faire. Merci aussi donc à Éric Revel, Elisabeth Lévy, Alexis Poulain, parce que dans un instant, on va aborder... Ce qu'on a évoqué tout à l'heure, bien sûr, aussi les questions d'économie, notre indépendance,
l'Europe, ce sont des mots qui font peur. Oui, l'avocat François Bouleau, qui s'est imposé comme figure médiatique du mouvement des Gilets jaunes, sera avec nous dans quelques instants. Alors, il tacle le néolibéralisme, ça a fait rire Alexis Poulain, et propose sa lecture de la situation politique actuelle, et enfin, c'est avec des propositions. Le livre s'appelle « Reprendre le pouvoir » aux éditions des Liens qui libèrent. Il sera avec nous dans quelques instants. Vos appels 0826 300 300. Vous voulez lui poser des questions, et il y répondra jusqu'à 10h. À tout de suite.